La voie de passage est de plus en plus étroite. C'est ce qu'on reconnaît du côté de Matignon. Le trou de souris s'est rétréci. Mais pour le moment, Charles Villeneuve, ça passe.
Moi, je pense que ça tiendra, que le président de la République tiendra pratiquement jusqu'au bout. Parce que décréter le reconfinement général, c'est aussi avoir la conviction profonde qu'on est capable de le faire respecter. Or, dans l'état de nerfs, de ras-le-bol dans lesquels se trouve une grande partie de la population, ce sera très difficile. J'en veux pour illustration, rappelez-vous, le week-end dernier, où au premier rayon de soleil, aussi bien les berges de la Seine que les berges de la Garonne à Toulouse étaient envahies. Il a fallu, si vous voulez, deux ou trois interventions des forces de sécurité, des forces de police, des CRS, des gendarmes, pour évacuer, et les gens, de toute façon, aussi bien les Parisiens que les Toulousains, y revenaient. D'ailleurs, le maire de Nice, Christian Estrosi, avait pris la précaution d'interdire la promenade des Anglais parce qu'il avait parfaitement prévu le coup. Et lui-même, je crois, en a fait la confidence d'ailleurs à Michel Cottard, il pourra le répéter, puisqu'elle l'a eu au téléphone. Moi, j'ai eu le maire de Cannes et puis le maire aussi de Mandelieu, etc. Et tous ont pris la précaution par rapport, parce qu'ils ont des plages, si vous voulez, formidables, magnifiques, avec des promenades au bord de ces plages. Et ils interdisent catégoriquement et ils font envahir, si vous voulez, ces bords de plage par leur police municipale, la police nationale s'y met aussi, parce qu'ils savent très bien que les gens, quand il fait beau, ont envie de sortir, de respirer. Donc, je pense que le président de la République ira jusqu'au bout de sa stratégie sur ce plan-là.
Gérard Carré, vous pensez qu'il y a un ras-le-bol psychologique des Français qui ne peuvent pas accepter le confinement,
et donc... Je partage ce que vient d'être dit, sauf que je ne partage pas la conclusion du tout, ou les prémices, puisque c'est la dire en prémisse. Je crois que l'idée de tenir, qui a tenu, si j'ose dire, l'idée de tenir a tenu pendant un mois. Macron y est très fortement attaché, mais maintenant on est passé du tenir à se tenir prêt. Se tenir prêt, c'est Castex hier soir. Moi, j'ai mis mon Castex décodeur.
Mais oui, quand c'est Gérard.
Alors, ça veut dire quoi, le Castex décodeur?
Je te laisse, mais depuis le début, il est sur cette ligne, le Premier ministre.
Il est sur cette ligne, sauf qu'il y a deux choses. Il y a les volontés et il y a les faits. Or, les faits sont extraordinairement, effectivement, inquiétants. Le nombre, moi, je suis comme tout le monde, jour après jour, le nombre des réas, on est passé de 3000 à 3002 à 3005, on a passé les 4000. Or, on n'a pas, et c'est peut-être un autre sujet, mais c'est le même, on n'a pas, depuis un an, mis davantage de lits de réa. On aurait préparé 1000 lits ou 2000 lits de réa supplémentaires pour toute la France, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais là, on n'a pas préparé ça. Et je pense que la pression, c'est la pression du corps médical qui est extraordinairement forte. Et il y a même aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que j'ai entendu qui m'a fait sursauter, il y a des médecins de haut niveau, je pense à un professeur qui dirige l'urologie à Cochin, un des grands hôpitaux parisiens, qui s'est fait le porte-parole d'un certain nombre de médecins qui disent aujourd'hui, les médecins, il y a des gens qui sont en réanimation, qui pourraient ne pas y être, mais il y a quelque part une sorte de pression à travers ça du corps médical pour obliger l'exécutif à prendre des mesures coercitive. Donc je crois qu'effectivement, le trou de souris aujourd'hui s'est réduit à pratiquement rien.
Alors vous dites que vous sursautez, j'en vois un autre à côté de vous qui sursaute et après on donne la parole à Michel Cotta et Catherine c'est Charles Villeneuve.
Simplement, j'ai vérifié hier le nombre de lits de réanimation. Au début de cette crise sanitaire, la France était équipée de 5433 lits de réanimation. Aujourd'hui, il y en a 6733, c'est-à-dire 2900 de plus. C'est pourquoi? Parce que ce qu'ils appellent des lits armés, c'est-à-dire qu'ils ont équipé des lits normaux en lits de réanimation. Et vous savez, c'est très difficile parce que pour chaque lit de réanimation que vous installez, il faut 4 à 5 infirmiers. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, ça n'a pas augmenté plus. Mais il y a eu 2900 lits supplémentaires.
Toujours est-il, Michel Cotta, qu'aujourd'hui, on transfère des patients, ça a été annoncé dès aujourd'hui par voie aérienne de Seine-Saint-Denis.
Oui, mais pas partout.
Non, certes.
C'est justement la disparité entre les régions qui fait qu'on en transfère beaucoup, d'ailleurs, j'ai l'impression, puisque
des centaines,
des centaines.
Alors, il envisage des centaines. Attendez, premiers cas, ce sera aujourd'hui par voie aérienne depuis la Seine-Saint-Denis.
Moi, je trouve que l'acceptabilité reste quand même... moi, j'entends bien les médecins... j'entends bien Karine Lacombe, qui à force est devenue une amie, dire « mais si on m'avait écouté, si il y a un mois on avait fait quelque chose, on n'en serait pas là ». Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un passage difficile entre les 4000 lits et les 7000.
Les 5000, oui.
Donc on a l'impression que effectivement le gouvernement attend le plus longtemps possible pour passer entre les gouttes, voilà. Mais est-ce que après on ne lui reprochera pas quand même d'avoir fait des... qu'il y ait eu des morts dans l'intervalle? Il y a eu des morts dans l'intervalle. Donc, est-ce qu'après, ce qui maintenant est signalé comme assez formidable, Emmanuel Macron a résisté à la pression médicale, est-ce que ça ne peut pas se retourner gravement contre lui?
Catherine Ney, est-ce que ces transferts de malades, ces déprogrammations dans les hôpitaux peuvent suffire, sachant que, comme le rappelait le directeur de la PHP, Martin Rich, ça coûte cher, c'est de la logistique, mais ça ne règle pas le problème de fond?
Ben non, mais est-ce que moi, je n'ai pas de réponse à ce que ça règle. En tous les cas, il y a le couvre-feu hein, dans plusieurs régions et pour beaucoup de gens. Et on voit que le nombre de nouvelles contaminations est un chiffre qui est à peu près tourne autour entre 25 et 27 000. Bon. Et alors, on disait, regardez les Italiens, ils sont formidables, les restaurants sont ouverts, on recommence à vivre et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'un coup, 150 000 nouveaux cas chaque jour en ce moment. Et du coup, le nouveau patron de l'Italie, Draghi, eh bien, il impose un confinement qui sera total pour le week-end de Pâques. Toute la péninsule sera au rouge, vous voyez.
Et qui sera strict dès lundi dans la moitié des régions italiennes.
Bon. Et alors nous, on se plaint parce que les vaccinations ne vont pas vite, mais en Italie, il y a seulement 1 800 000 Italiens pour 65 millions d'habitants qui sont vaccinés. Parce qu'ils ne les fabriquent pas. Ils sont comme nous, ils sont en situation. Bon, on voit bien que la seule solution, c'est la vaccination. Or, au moment où on se dit ça, il y a une polémique sur le vaccin disponible, l'AstraZeneca, dont on n'arrive pas à savoir si c'est mauvais, pas bon. Tous les gens ont la trouille.
Même si ce matin, la présidente de la Haute Autorité de Santé sur Europe 1 rappelait que cet AstraZeneca était un vaccin crédible, efficace, et que les seuls cas de thrombose, c'était une trentaine de cas sur 5 millions.
Tous les Anglais sans rapport. Tous les Anglais ont été vaccinés.
Je suis sûr qu'elle a raison et que c'est effectivement peu par rapport au nombre. Il suffit de regarder les Anglais, les 11 millions d'Anglais vaccinés avec ce vaccin, les 15 millions d'Anglais vaccinés avec celui-là, AstraZeneca. Il n'empêche que nous sommes des gens qui étudions l'opinion depuis des années, des dizaines d'années. Quand une affaire est mal embarquée, or l'affaire du troisième vaccin, l'AstraZeneca, elle a été dès le départ, du fait d'un certain nombre d'erreurs de communication, y compris d'ailleurs de la marque AstraZeneca.
Et du président.
Enfin, peu importe. Elle a été très mal engagée. Les gens ont eu une prévention. Et aujourd'hui, ces cas dont on aurait peut-être fait peu de cas, en l'occurrence, dans d'autres circonstances, les gens considèrent. Et moi, j'ai des médecins qui m'ont dit, moi, j'avais dit, ceux qui ont quelques vaccins, là, ils ont 10, 20 trucs, ils vous disent, j'ai essayé de démarcher mes patients, et il y en a qui me disent, non, je ne veux pas être vacciné.
Et alors qu'en France, sur le nombre de Français qui ont été vaccinés déjà avec ce vaccin incriminé, il n'y a pas eu d'effet secondaire. On ne le note pas.
Oui, c'est vrai, mais nous, ici, je suis intimement persuadé que la majorité d'entre nous, si on nous propose AstraZeneca, on va renacler.
On va renacler, oui.
Alors, on poursuit ce débat sur AstraZeneca, sur la politique vaccinale, mais aussi sur cette menace de confinement, juste après une première pause, toute petite, à tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Le débat des grandes voix jusqu'à 11h avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney. Avec l'arrivée des beaux jours, les journées qui rallongent psychologiquement, Michel Cotta, est-ce que les Français peuvent réitérer ce qu'ils ont accepté de faire il y a un an quasiment, jour pour jour, hein, mercredi, ça sera les un an du premier confinement.
Vous savez, je faisais la réflexion qu'il y a un an, quand ça a commencé, au fond, on avait l'impression que c'était une parenthèse, que cette parenthèse... s'achèverait par définition, et c'est ce qui a expliqué d'ailleurs qu'en juillet, plus personne n'ait fait attention. Mais je trouve que c'est l'atmosphère d'aujourd'hui est beaucoup plus pesante parce que ça fait un an qu'on est dans ces conditions, on n'en voit vraiment pas le bout, bien malin qui pourrait dire le bout. Alors on entend les offices mondiaux de la santé disent rien avant 24, d'autres disent c'est la fin en 21. Donc c'est très 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 déstabilisant, et dans cette déstabilisation,
dans la déstabilisation
globale qui touche surtout les jeunes, mais qui touche aussi les vieux, ou les gens plus âgés, ou ceux qui vont au bureau, etc. Moi, je crains que ce ne soit absolument pas accepté facilement. Et comme disait un de nos maires à Charles et à moi, Et le jour où les gens vous diront zut, on ne le suit pas votre truc, on sort tout, qu'est-ce que fera la puissance publique? Alors, c'est encore pire d'être désavoué. Et ça, il faut compter, ça fait aussi partie de la vie sanitaire française.
Justement, dit, Michel Cotta, cette exaspération dont vous faites part à l'instant, elle monte. Occupation des théâtres en France,
oui, ça, c'est
restaurateurs qui décident d'ouvrir alors qu'ils n'ont pas le droit, et aujourd'hui des cinémas qui vont rouvrir cet après-midi à Caen, par exemple. Est-ce que le gouvernement peut craindre une montée de l'exaspération en France?
Il y aura de l'exaspération, oui. S'il décide. Prenons l'hypothèse que j'ai, moi, pour l'instant, je pense que c'est peut-être le cas. C'est-à-dire qu'on sera obligé de faire un reconfinement dur, parce que les chiffres montent de manière exponentielle, peut-être. Si Macron y est obligé, il va y avoir un problème politique majeur, parce que son pari, il a tenu courageusement, disons-le, courageusement son pari pendant un mois. Les gens, l'opinion massive, il y a eu des critiques, mais globalement, l'opinion l'a encouragé dans ce pari, c'est-à-dire il vaut mieux ne pas reconfiner. Mais si effectivement, il est obligé de reconfiner sous la pression de l'événement, l'opinion, vous savez, malheureusement, quand il y a la peur comme une dimension autour d'un problème, l'opinion est versatile. Et elle lui reprochera à ce moment-là, elle dira « il aurait dû le reconfiner plus tôt, il a eu tort de tenir pendant deux mois sur cette ligne-là, et donc il a un enjeu politique majeur, parce qu'on sera quasiment à exactement un an de l'élection présidentielle, c'est-à-dire pas loin. »
Oui, non, mais ce qui est vrai, c'est que de la manière dont on sortira de cette crise sanitaire, sera une mesure d'évaluation de l'attitude du chef de l'État, de l'exécutif. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Mais rappelons-nous que le premier confinement, nous l'avons tous vécu de manière assez agréable, je dirais, avec une redécouverte de ce qu'était la campagne, une redécouverte de ce qu'étaient les villes moyennes, du système de vie, de ce côté extrêmement agréable de cette vie de province, comme on dit.
Attends, ça, je lui mettrais un bémol. Pour ceux qui étaient à la campagne,
ceux qui étaient dans des
appartements de 40 mètres carrés dans les villes avec des gosses et qui étaient obligés de faire du télétravail à deux avec des enfants, ceux-là, ils ne l'ont pas vécu de la manière campagnarde.
D'accord, mais tu te contredis sur le fait que, en fait, l'opinion publique a été favorable à ce premier confinement.
Elle était obéissante.
On est d'accord.
Mais elle est obéissante.
Mais là, je pense qu'elle ne sera plus obéissante. Je rejoins Michel Cotta là-dessus. Elle en a marre. C'est ça, l'état à l'heure actuelle, si vous voulez, de l'opinion publique.
Ce quinquennat où le président aura enchaîné les gilets jaunes et puis après cette pandémie, donc on ne va pas le juger dans un an pour savoir s'il a réformé ou pas le pays. Est-ce que le pays est dans le chaos ou pas? Parce qu'un nouveau confinement, c'est le chaos. Ce sera très, franchement, c'est économiquement pas soutenable.
Non, le problème est de savoir ce qu'on supporte, au fond, c'est que l'acceptabilité aussi du nombre des morts. Parce qu'au fond, on a quand même dépassé 90 000 morts, ce qui est quand même pas mal. Il y a 300 morts environ par jour, enfin entre 250 et 300. Tout ça fait 0,01% de la population. Donc évidemment, vous avez des gens comme M. Raoult qui disent « Qu'est-ce que c'est? C'est une petite grippette. Est-ce que ça vaut le coup d'enlever ?» Est-ce que ça vaut le coup d'enlever 40% d'intervention sur les cancers, etc. Donc la ligne, ce que je veux dire, c'est que la ligne de crête est si fragile que franchement, quoi qu'on fasse, on finit par faire mal.
La ligne de crête est fragile, le trou de souris est de plus en plus petit, comme dit-on de
c'est devenu
du côté
un chat d'aiguille.
De Matignon, absolument.
Et puis, la difficulté pour le gouvernement est très difficile, parce que là, le Figaro, ce matin, fait un papier très intéressant sur ce que disent les médecins. Alors, il y a les rassuristes, les alarmistes, ceux qui changent d'avis, les référents, les complotistes, enfin, il y a tout ça. Et comment sortir le bon grain de livret, quoi. Vous voyez, c'est très, très difficile. Il y a même François Sureau, qui est un immortel, qui avait fait un papier à la gloire de Didier Raoult, qui disait toujours la même chose, qui réussissait. Vous voyez, même les immortels, qui n'ont pas peur de mourir.
Les autres, ils sont mortels.
Non, mais on a découvert surtout la versatilité des diagnostics médicaux, notamment dans les chaînes d'info télé. On s'est aperçu qu'en réalité, tout ça n'était pas très homogène. Et ça aussi, ça nous a impressionnés.
Et vous voyez, quand on pense aux Français qui ne sont jamais contents, et bien, il y a un an, on n'était pas encore confinés. On allait au restaurant et tout ça, on râlait tout le temps parce que ça n'allait pas, les machins. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on était heureux quand on était malheureux. Vous voyez, ben maintenant, on le sait.
Et puis la longueur de l'épreuve joue quand même beaucoup. 6 mois, c'était rien. Un an sans avenir, sans prévision d'avenir, ça devient effectivement très difficile.
On était heureux quand on était malheureux. Je retiendrai cette phrase de Catherine Ney pour clore ce premier débat des grandes voix. Dans un instant, nous poursuivons avec un autre thème, les violences urbaines et ce sentiment d'insécurité et d'impunité. Quelle est la réalité ? On en parle juste après.